Sortez de vos tombeaux, c'est un jour de naissance. Apportez vos guitares, venez sans façon, réveillez vos chansons, vos rires et vos fanfares. Dieu n'est plus prisonnier de nos idées abstraites. Venez, la vie est prête. Dieu se fait jardinier. Dieu n'est plus dans les livres, ni dans l'éternité. Dieu est en liberté. Il prend le temps de vivre. Écoutez rire Dieu. Il quitte son grand âge, son vieux trône en nuage, c'est que Dieu est heureux. Venez cueillir les vagues, venez broder la mer, parfum d'orange amère, la nuit anise ses vagues. Croyez enfin vos yeux, le cœur en embuscade. Mon peuple est un nomade, c'est le peuple de Dieu. Venez, salle des fêtes, venez, Dieu nous attend, c'est le bal du printemps. Frères et sœurs, soyez bienvenus au nom de ce Dieu qui est Père, qui est Fils, et en ce temps de Pentecôte, bien sûr, qui est Esprit Saint. Nous nous levons pour invoquer sa présence. La mauvaise humeur est en moi. Donne-moi alors la joie de réapprendre à sourire. Il y a des moments, Seigneur, où je garde tout pour moi. Fais venir le jour de réapprendre à partager et à aimer. Il y a des moments, Seigneur, où le mensonge niche à ma porte. Accorde-moi alors la force de réapprendre à être vrai. Ce temps de Pentecôte, Seigneur, soit pour moi, pour l'Église, pour l'humanité tout entière, le temps d'apprentissage des justes valeurs, le temps d'un réel changement. Comme la lente montée d'un jour nouveau, tu viens nous renouveler entièrement par ta parole et ton esprit, à l'image et à la ressemblance de Jésus, notre Seigneur. Merci pour ce renouvellement. Amen. Celui qui croit au Fils unique n'est pas jugé. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Que ces paroles de grâce résonnent dans chacun de nos cœurs, nous donnent de vivre avec joie la vie que Dieu nous donne. Assurés de ce pardon de Dieu, de sa grâce posée sur nos vies, nous pouvons entendre sa volonté. Et je relis pour vous cette volonté dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 12 et suivants. Vivez en paix entre vous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, reprenez ce qui vit de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont besoin, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Amen. Nous chantons « Viens, Esprit de la promesse ». Ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur, que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen.
Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, les versets 1 à 19. C'est Paul qui parle. Accueillez celui qui n'a pas une foi solide. Ne critiquez pas ce qu'il pense. Par exemple, quelqu'un croit qu'il peut manger de tout, mais quelqu'un d'autre, qui n'a pas une foi solide, mange seulement des légumes. Celui qui mange de tout, ne doit pas mépriser celui qui ne mange que, qui ne mange pas certains aliments. Et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Et il restera debout, parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Quelqu'un pense que certains jours sont plus importants que d'autres. Quelqu'un d'autre pense qu'ils sont tous pareils. Chacun doit être bien persuadé de ce qu'il pense. Celui qui fait des différences entre les jours fait cela pour le Seigneur. Celui qui mange de tout fait cela pour le Seigneur, car il remercie Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout fait cela pour le Seigneur, et lui aussi remercie Dieu. Personne parmi nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Alors, en vivant ou en mourant, nous appartenons au Seigneur. Oui, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juger ton frère ou ta sœur chrétien? Et toi, pourquoi les mépriser? En effet, nous devons tous nous présenter devant le tribunal de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et tous me rendront gloire. » Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Mais voici plutôt ce que vous devez décider. Ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur pour leur faire perdre l'équilibre ou pour les pousser au mal. Je le sais, et grâce au Seigneur Jésus, j'en suis sûre, rien n'est impur. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle devient impure pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère ou à ta sœur à cause de ce que tu manges, tu ne vis plus selon l'amour. Pour une question de dur. Ne va pas détruire un frère ou une sœur pour qui le Christ est mort. Ce que vous jugez bon pour vous, cela ne doit pas donner aux autres l'occasion de le trouver mauvais. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie donnée par l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu et les gens lui donnent raison. Alors, frères et sœurs, cherchons ce qui sert la paix et ce qui construit la communauté.
Il faut relativiser nos doctrines, il faut relativiser nos manières d'être au monde. Et l'on sait malheureusement que finalement ce qui a le plus départagé les chrétiens, ce n'est pas l'intention, mais c'est souvent le légalisme, c'est souvent nos pratiques, c'est souvent la manière de considérer comme il faut servir le Seigneur autour de pratiques encore une fois. Et si on regarde le protestantisme, quelle est la pratique qui a séparé pendant des siècles les luthériens des réformés? La Sainte Cène. Pendant des siècles, luthériens et réformés ont refusé de communier ensemble. Ça semble tellement fou qu'on l'a oublié. Les réformés très proches des luthériens, très proches théologiquement, très proches théologiquement, ont refusé de communier ensemble parce qu'ils n'avaient pas exactement la même perception de ce que signifiait la Sainte-Cène, ils n'avaient pas exactement la même pratique. Où est l'intention de cœur là-dedans? Où est la fraternité? Où est l'accueil de l'autre dans cette lettre de Paul que nous avons lue ce matin? Il est question aussi de cœur. Qu'est-ce qui est primordial? Est-ce que c'est l'intention de cœur, l'accueil, ou est-ce que c'est la manière dont nous envisageons notre juste pratique, notre juste manière d'être au monde et de servir le Seigneur? Parce que je souviens en entendant Christine nous relire ce passage. Au départ, l'apôtre Paul utilise l'idée, oui, il y en a certains qui mangent des légumes, certains d'autres mangent de la viande, il ne faut pas critiquer ceux qui mangent que des légumes, il ne va pas critiquer ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent de la viande, il ne va pas critiquer ceux qui mangent des légumes. J'entendais la dispute autour du véganisme, c'est pas l'apôtre Paul, mais évidemment, cela dépasse cette pratique. Donc, rien n'est impur. Ce n'est pas la pratique que nous avons de notre foi chrétienne qui doit être la mesure de nos relations, de notre accueil mutuel. Et l'apôtre Paul nous propose à nouveau cette formule choc. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Comme ce passage, toute cette formule. Ne nous jugeons pas les uns les autres, qui résonne évidemment, qui fait écho. Cette exhortation de Jésus-Christ, hein, aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Paul, ne vous jugez pas les uns les autres. Ce qui est en jeu, je ne l'ai pas dit contextuellement à l'époque où écrit cette lettre l'apôtre Paul, c'est la question des viandes sacrifiées aux idoles. La question éthique sous-jacente, c'est est-ce qu'un vrai chrétien, l'époque de l'apôtre Paul, a le droit de manger de la viande qui était sacrifiée aux idoles, qui était sacrifiée aux dieux grecs ou aux dieux romains, hein, donc on sacrifie des viandes, il reste de la viande, elle est vendue pour générer un petit peu d'argent pour les cultes grecs ou romains, est-ce qu'un chrétien a le droit de manger de cette viande sacrifiée aux idoles? Est-ce qu'en achetant cette viande et en la mangeant, il ne devient pas idolâtre? On débat.
Accueillir sa foi et restreindre ma liberté et ne pas manger de cette viande sacrifiée.
hommes. Vous voyez, d'un côté, il y a ma liberté d'enfant de Dieu, et je puis avoir raison, la parole de Paul dit, celui qui a raison, celui qui se sent libre de manger de ses dents sacrifiées aux idoles. Et de l'autre côté, il y a l'accueil de mon frère, le souci que j'ai de l'accompagner et de ne pas le scandaliser. Ce qui est le principal, la parole de Paul nous le dit aussi, c'est la paix entre les frères, c'est la communion fraternelle, c'est que l'Église soit en paix, que nous soyons en paix les uns avec les autres. Vous allez dire, c'est que on n'est pas dans la réalité. Hein. Je vais vous donner deux exemples, deux moments de mon ministère où j'ai failli être pierre d'achoppement pour un frère en Christ. Je l'ai peut-être même été. Je ne sais plus si c'était une célébration communique ou en tout cas un moment où on avait invité un prêtre à venir prêcher. En tout cas, il y avait la présence de frères catholiques dans la salle. Il y avait Sainte-Seine, on avait réussi à prendre la Sainte-Seine, on avait accepté de prendre la Sainte-Seine avec nous. Et puis le culte se fait, et à la fin du culte, il restait du vin de Sainte-Seine. Il y avait un petit jardin à Toulon, moi je prends la coupe Sainte-Seine, puis je verse le vin de Sainte-Seine. Voilà, pas dans quel niveau, hein, quand même, au pied des plantes, je me suis arrivé un petit peu normal. Et le collègue prêtre qui était là m'a vu, et j'ai senti, on en a discuté, j'ai senti qu'il avait été choqué, peiné par mon geste. Et là, j'ai dit, mais bien sûr. Le vin, une célébration catholique, devient véritablement le sang de Christ, c'est de l'ordre d'un mystère. Et donc, qu'on puisse verser ce sang de Christ, voilà, ne pas y faire attention, vraiment une provocation dans le mauvais sens du mot, voilà, une remise en question. Enfin, vraiment, j'avais été ce jour-là pour lui, Pierre d'achoppement, sans m'en apercevoir. Deuxième exemple de cela, toujours à Toulon, à Toulon, il y avait une grande communauté polynésienne, liée au fait qu'à Toulon, il y a l'armée française, l'armée française, vous savez, a été dans le Pacifique, et voilà, donc Toulon était une sorte de base arrière. Jeunes aussi qui viennent se former en France, qui sont présents à tout le monde. Vous savez peut-être que la culture polynésienne, indonésienne, il y a des espaces sacrés, des espaces tabous, hein. Il y a des espaces que tout le monde ne doit pas aborder parce qu'ils sont sacrés tabous. Donc je pense que ça influe sur la théologie et la manière d'être au monde des Polynésiens, et même des Polynésiens chrétiens, c'est-à-dire que ça reste dans leur inconscient, dans leur culture, cette affaire d'espace sacré, d'espace de... On avait coutume à Toulon, lors de la fête de Barbasse, de mettre les tables dans le temple, voilà, de manger dans le temple, et puis à un moment, on table de Sainte-Seine, on commence à mettre des places sur la table de Sainte-Seine, on va utiliser la table de Sainte-Seine comme une table de dessert, de cuisine. Et là, j'ai vu dans le regard de mes frères et sœurs polynésiens, là, aussi, c'était une provocation pour eux. La table de Sainte-Seine, il ne fallait pas en faire. C'est un espace sacré. Un espace voilà, où vous pouvez poser la coupe de bénédiction, vous pouvez poser le pain, et donc cet espace n'avait pas. Voilà, devait être respecté, et il n'était pas question pour eux. Enfin, on se met mal qu'on puisse mettre des plats de tous les jours sur cette table sainte. Donc, vous voyez deux exemples un petit peu bateaux, mais concrets, qui disent que, oui, dans notre pratique de tous les jours, un instant de plein dé, comme disait un personnage bien connu, nous pouvons être pierre d'achoppement pour notre voisin, pour notre prochain, et que l'Évangile nous appelle à savoir l'accueillir, à savoir accueillir sa foi, et au minimum à entrer en dialogue avec lui sans le juger avec un regard supérieur. Mais voilà, il devrait savoir que nous sommes totalement libres et que rien n'est impur. Et puis, troisième forme de choc, je disais, l'apôtre Paul est un bon communicant, troisième forme de choc. Cœur de ce texte. Et j'avais jamais réalisé, c'était dans ce texte, on utilise, j'avais jamais utilisé quel que soit l'endroit de notre vie, quelle que soit notre condition, quel que soit le pays où nous habitons, que nous passions par la vallée de la mort ou que nous soyons encore vivants, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Voilà la bonne nouvelle qui jaillit de la parole de la mort. Nous appartenons au Seigneur. Cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de notre pratique, cela ne dépend pas du fait que nous mangeons des légumes ou de la viande. Alors, rien à voir, c'est une grâce qui nous est proposée. Nous appartenons au Seigneur. Enfin, dernière fois, le choc, et je m'arrêterai là. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger et de boire. L'Esprit Saint, je fais le vœu que chacun d'entre nous, que pour notre Église, le royaume de Dieu ne soit pas une affaire de manger et de boire, mais qu'il soit vraiment une capacité pour nous, pour notre Église, à recevoir la joie et la paix.
Thank you.
Revenons à la prière d'intercession. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces mots de l'apôtre Paul. D'abord, qu'ils nous disent la liberté des enfants de Dieu, rien n'est impur. C'est l'intention de notre cœur qui compte. L'intention de notre cœur portée vers toi, Seigneur, l'intention de notre cœur portée vers notre prochain. Seigneur, donne-nous cette pureté d'intention par le souffle de ton esprit, par la disposition de notre cœur, cela par la pratique de la lecture de la Bible et de la prière qui sont les fondements de toute vie chrétienne. Seigneur, merci de replacer notre foi personnelle, cette foi personnelle si importante pour le protestantisme, pour chacune et chacun d'entre nous. Merci de la replacer dans le cadre de la vie communautaire, dans le cadre de notre relation à notre prochain. Merci de nous redire ce que l'apôtre Paul nous a dit dans une autre lettre, celle des que, bien sûr, il y a la foi et l'espérance, mais que la valeur la plus importante, c'est l'amour. Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir, de savoir aimer sans rien attendre. Pouvoir, de savoir aimer, parce que le Christ nous en a montré le chemin. Seigneur, tu nous dis de partager les joies de ceux qui sont dans la joie et de partager les peines de ceux qui sont dans la peine. Alors nous sommes dans la joie avec tous ceux qui sont dans la joie, tous ceux qui ont des projets de baptême, de bénédiction nuptiale, tous ceux qui sont dans la joie d'avoir un travail, des amis, une famille, tous ceux qui sont dans la joie d'avoir pu passer cet épisode de pandémie sans être malade et sans avoir perdu un être cher. Seigneur, nous voulons aussi être dans la peine avec ceux qui sont dans la peine parce qu'ils ont été touchés par la Covid et parce qu'ils doivent en subir les conséquences. Dans la peine parce qu'ils ont perdu un être cher. Dans la peine parce qu'ils vont perdre leur travail. Dans la peine pour toute autre raison. Seigneur, nous te prions pour eux. Souffle de paix repose sur eux. Nous voulons te prier particulièrement pour la famille, les amis de Janine Roland, que ta paix aussi repose sur chacun de ses membres. Seigneur, merci parce que soit que nous vivions, soit que nous mourions, tu nous dis que nous t'appartenons. Que cela ne dépend pas de nos actes, mais que cela dépend de ta juste grâce, de ta juste volonté, de ton juste amour. Merci de nous le rappeler aussi fermement ce matin. Dans la communion de ton Église universelle, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous levons pour entendre les paroles d'envoi et de bénédiction. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient de l'abondance de la maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. ta lumière, nous voyons la lumière. Allez avec l'assurance, frères et sœurs, que la lumière de Christ brille sur vous. Amen. Et nous chantons que la moisson du monde est grande.